même liés à Necker, au roi de France, à Madame de Stael, au château de Coppet, etc., dans toute cette région-là-bas. Plusieurs pasteurs de l'Église réformée aussi ont été réveillés. Et toutes ces personnes, et donc des agriculteurs aussi, beaucoup d'agriculteurs, d'hommes de la terre, et dans ce réveil, ils ont eu à cœur de partir, comme Hervé nous l'a dit, un, deux, trois, partez. Et comme aussi dans la louange, il y a eu cette interpellation pour ce peuple que Dieu aimerait tellement toucher. Et en quelques années, à Genève, ce sont des dizaines et des dizaines de colporteurs bibliques, il y a 200 ans, qui sont partis pour évangéliser le monde. Et en quelques années, ils ont eu des gros budgets, beaucoup de gens ont donné, et ils ont eu des liens avec des ministères et des contacts dans le monde entier. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein. Ils ont eu des contacts à New York, en Afrique, en Asie. Et ils ont été en connexion avec vraiment l'Église sur la surface de la Terre, et ils ont pu soutenir et créer des choses qui sont la pointe aujourd'hui, qu'on n'arrive pas encore à faire, comme développer les écoles chrétiennes, développer des hôpitaux, développer des accueils pour des personnes déficientes mentales, avec vraiment l'amour de Dieu, etc. Et ils ont eu un réseau incroyable en quelques dizaines d'années. Ça a été vraiment un réveil. Et s'est créé, avec cette équipe-là, la Société évangélique de Genève, dont aussi, avec l'Alliance évangélique, Henri Dunant, la Croix-Rouge et ces œuvres-là sont nées. Et nous sommes aujourd'hui, en 2019, à Mouchard, concernés par cela. Dans ces colporteurs qui sont partis dans le monde entier, il y en a eu quelques-uns qui sont venus à Lons-le-Saunier, qui sont venus à Louhans, à Branges, à Sornay, à Tournus, à Mâcon, et qui ont créé des écoles et des églises. Ils avaient une vision prophétique qu'on enseigne aujourd'hui dans les séminaires de pointe qu'on croit découvrir, c'est-à-dire d'avoir pas seulement un évangile qui touche les âmes, mais qui touche la personne dans son entier et qui impacte la société. Et on voit par exemple encore, vous pouvez le constater, au temple de l'Église réformée à Sornay, juste à côté de Louhans, où ils ont construit en même temps le temple et les salles de classe. C'était vraiment une belle vision. Et à Mâcon, par exemple, ils ont eu à cœur d'envoyer un évangéliste, un pasteur et un instituteur. Une équipe de choc apostolique. Vous voyez, aujourd'hui, on cherche à faire des équipes apostoliques. Et ils faisaient déjà ça. Et c'est intéressant qu'à Mâcon soit l'endroit où vous avez envoyé un instituteur dans l'équipe apostolique. Et que c'est justement à Mâcon où il y a eu des écoles chrétiennes qui ont développé, entre autres, pas que là, mais quand même, ça a été un des lieux phares où on a enseigné il y a une vingtaine d'années, avec Luc Bussière et d'autres, la vision des écoles chrétiennes. Hier après-midi, à Mouchard, nous avions avec Angeline, Mathias, Jackie, Catherine, j'espère que j'oublie personne. Qu'est-ce que moi? Amoré, j'ai dit quoi? Ah, Mouchard, Amoré. Amoré, dans le Haut-Jura, une équipe de la Société évangélique de Genève qui est venue rencontrer, qui nous a convoqués, invités à rencontrer avec les Caudwell, j'ai oublié les Caudwell. François Caudwell aussi, c'est important qu'il soit là, parce que c'est lui qui a, un de ceux qui a redécouvert cette histoire avec, dans des vieux livres. Il a commandé même un livre de cette époque qui n'existait plus sur les rapports dans la Bresse de ce qui se passait. Il l'a trouvé sur Internet aux États-Unis. Il a dû le faire venir un livre qui n'existait plus ici. Et aux États-Unis, ils avaient gardé ce témoignage dans la Bresse de ce réveil. Et hier après-midi, après que cette société évangélique, après 200 ans, cette vieille dame qui a failli plusieurs fois capoter, fermer, et qui a, un des responsables hier après-midi, nous racontait qu'il y a 2 ans encore, ils avaient fixé au lundi ou au mardi de la semaine la rencontre, l'assemblée générale de clôture de l'association. Ben, ils disaient, il faut bien avoir une fin, il y a une fin à tout, hein, puis d'autres font aujourd'hui le travail, on n'a plus d'argent. ils ont dit, on a vraiment été dépouillés, ils ont reçu l'image d'un arbre en hiver qui avait perdu tous ses fruits, toutes ses feuilles. Il n'y avait plus rien du tout. Et il dit, on était vraiment. Ils sont venus avec beaucoup d'humilité. C'était, on va dire, 4 personnes âgées avec un moins âgé. Non, encore un jeune, dans la force de l'âge. Allez, on va dire qu'il était jeune encore, qui était là. Mais ils ont dit, on a tout perdu. Ils avaient des millions de francs suisses, même, attends, sur des comptes en banque. Plus rien aujourd'hui. Ils avaient un magnifique projet sur la ville de Genève pour un coffee bar avec grande librairie chrétienne. ça a coulé, ça a fait faillite. Un ministère d'évangélistes, je crois, qui est venu même du Canada pour les encourager. Il est reparti, ça, voilà, ça a foiré. Et donc, un jour, ils ont décidé de fermer cette noble dame de 200 ans. Donc, c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est pas grave, d'autres le font. Et voilà qu'un des frères de la société évangélique a vraiment reçu dans son cœur, dans le week-end, qu'il ne fallait pas fermer, il fallait continuer. Il a dit, qu'est-ce qu'on a ? Plus de ministère, on n'est plus que des vieux, on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ils ont reçu une nouvelle vision qu'ils ont écrite il y a 2 ans. Ils ont dit, ben, nous pourrions soutenir par la prière et visiter les lieux qui ont été des lieux où la société évangélique a pu bénir et faire plein de choses. Même si on n'a plus aujourd'hui tous ces hommes et ces femmes et ces ministères, ces gens, on pourrait quand même prier pour eux, leur demander leur sujet de prière et les visiter. Et donc, ils ont été d'accord. Et ils ont, il y a 2 ans, dit « on continue ». Et dans les mois qui ont suivi, ils ont eu un contact avec Franck Jeanneret, ils ont eu un contact avec nous, par des circonstances qui seraient trop longues de rapporter ici, mais pour plusieurs qui ont été vraiment des coïncidences miraculeuses, notamment pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, l'année passée, à la fête du réseau à Montpont-en-Bresse, où on accueillait Macon dans le réseau. Il se trouvait que Bernard Bailly était chez nous le soir d'avant, parce qu'on l'avait invité, puisqu'il était le superviseur du réseau et qu'il nous connaissait bien. Et le soir avant cette fête à Montpont, nous lui avons raconté ce qui se passait il y a 200 ans dans la Bresse. Toi que je ne vois, je lui dis, il faut que tu saches ça. Alors lui ne connaissait pas cette histoire, mais ce que je ne savais pas, c'est que lui était membre de la Société évangélique de Genève, dans ce petit comité qui restait. Donc nous lui apprenions son histoire, et lui nous apprenait eh ben, qu'il allait être là avec nous à Montpont, et que nous allions avoir. Alors François Caudouel avait prévu de raconter dans cette journée ces témoignages de la Société évangélique de Genève, et lui était là, il ne les connaissait pas. Donc nous avons informé Bernard de ces merveilles de Dieu dans la Bresse, et lui nous a pu représenter la Société évangélique qui était là à Montpont-en-Bresse et qui a pu témoigner de cela, et qui a rapporté au comité, et tout ça a amené à l'après-midi de hier après-midi, où nous avons décidé de nous rencontrer et de travailler ensemble. Et donc ils ont hier noté des prénoms, des situations du réseau, bien sûr dans le secret du conseil pastoral et de la confidentialité, mais voilà, ils vont régulièrement maintenant porter des sujets de prière du réseau, venir nous visiter, ils ont pris des dates de rencontres d'équipiers ou de retraite, et voilà, et eux ont à cœur relancer l'intérêt de Genève, des églises de Genève, c'est plusieurs responsables anciens dans plusieurs églises de Genève, et ils ont à cœur de relancer l'intérêt des frères et sœurs de Genève pour la France voisine. Je vous dis tout cela pour dire, dans la suite de la soirée d'hier soir, hein, on a parlé des générations, de la fidélité de Dieu, que Dieu n'en a pas fini avec nous et que Dieu continue avec son peuple et qu'il est fidèle de génération en génération. Ça doit être un encouragement pour chacun de nous, ça l'a été pour eux, ça l'est pour nous, et je pense que c'est important qu'on se réjouisse d'être nous aujourd'hui, 2019, dans cette histoire de l'Église et dans cette histoire de Dieu avec son peuple. Alors des fois, ça me déprime un peu, parce que je me dis, à l'époque, il y avait, vous imaginez, dans une, nous je dis souvent, en ville, c'est facile, vous ouvrez une église avec un bon ministère, avec un bon groupe de louanges, surtout à Lyon ou à Paris ou à New York, vous avez vite 200 personnes, s'il y a des bons locaux, que ça peut préchauffer à peu près une louange, ok, parce qu'il y a des gens qui ont envie de changer d'église, il y a des nouveaux et tout ça. Mais à la campagne, c'est dur. On sait combien à Moret, à Branges, à Sornay, c'est dur. Et pourtant, eux, ils avaient réussi. Je dis, comment ils ont fait ? Ils étaient 200 à Sornay, ils étaient 150 à Branges. C'est des tout petits villages, les uns à côté des autres, qui étaient tout à fait catholiques à l'époque. Et on dit c'est dur avec le catholicisme, on dit c'est dur en France, on dit c'est dur avec les paysans, les gens de la terre, ils ne se laissent pas facilement atteindre. Et voilà que ces braves personnes de Genève qui sont parties en colportage, ils ont eu du succès, ils ont eu du fruit. Et il y avait sur une toute petite région, comme cette région entre Tournus, Mâcon, Louhain, il y avait plusieurs communautés de 100, 150, 200 personnes là à cette époque. Et aujourd'hui, nous, on galère avec des tout petits groupes et tout ça, on se dit, voilà. Mais le Seigneur, je crois, veut relever son peuple. On a chanté ce matin que ta gloire revienne et on veut croire à ces choses et on veut s'engager. Et le message de ce matin, c'est vraiment nous inviter à nous engager à creuser les puits anciens, message classique, et creuser les puits nouveaux. Ce message, il y a très longtemps que je l'entends et qui ne me parlait pas beaucoup, parce que je trouvais c'est un peu facile, oui, il faut creuser les puits anciens, bon d'accord, on connaît, c'était une belle image, une belle parabole de l'Ancien Testament. Et au dernier temps à Salvant qu'on a eu avec Catherine, j'ai tout d'un coup été frappé par ce texte que je connaissais bien, mais vraiment pour le travailler, pour en faire un enseignement. Et pendant que je travaillais ce texte pour en faire un enseignement, la Société évangélique de Genève, j'y reviens, avait son assemblée générale et le président a prêché sur ce texte. Donc, je venais de préparer mon message et quelques jours après, ou je ne sais plus, c'était quelques semaines ou quelques jours, mais peu de temps après, je recevais le rapport de leur assemblée générale qu'ils avaient eue et le président avait prêché sur ce texte qu'on va lire ensemble maintenant. Et je crois qu'il a vraiment à nous enseigner et à nous travailler, à nous faire réfléchir pour que chacun d'entre nous, et pas les autres seulement ou les ministères extérieurs, mais que chacun d'entre nous prenne sa part dans le fait de trouver ses puits, de les chercher dans sa vie, les chercher dans son histoire personnelle, les chercher dans sa communauté, les chercher dans son réseau, creuser aussi des puits nouveaux, pas seulement les puits anciens, il y a les deux choses, on y viendra tout à l'heure, et être un acteur, chacun, chacune ici, jeune ou moins jeune, ou plus vieux, vous voyez que même à Genève, des vieux, là, ils sont montés, ils ont bravé le col pour monter, passer, morer, venir, et ils sont prêts à venir nous visiter. Donc, à tout âge, on peut vraiment s'engager, qu'on soit des pierres vivantes, on prenne notre place pour dire, moi aussi, je veux creuser ces puits, moi aussi, je veux découvrir encore de nouveaux puits. Donc, on va lire ce texte de Genèse 26, versets 12 à 25. Si tout va bien, et bien, vous êtes projetés, mais je vous invite ceux qui ont des Bibles, c'est quand même plus facile de l'avoir sous les yeux et de pouvoir le lire ensemble. Alors, Genèse 26, à partir du verset 12. Alors, je ne sais pas si ce sera la même, tu sais quelle version c'est ? Second. Louis II, 1910, je pense. Voilà, c'est ça. Moi, ce n'est pas la 1910, mais en gros, ça va être la même chose. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. On pourrait s'arrêter là et prêcher tout le message là-dessus. La bénédiction de Dieu n'a pas empêché qu'ils doivent semer, c'est-à-dire c'est du travail, et le fait d'avoir semé seulement, sans la bénédiction de Dieu, n'aurait pas suffi. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, du menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs, et aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous !» Et il donna au puits du nom d'Essec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent encore un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Voilà, on pourra lire la suite du récit une autre fois, mais ce matin j'aimerais m'arrêter avec vous à cette portion-là du texte. Premièrement, bénédiction sur le travail de leurs mains. Il sema et la bénédiction de Dieu est là au centuple, la grâce de Dieu. Travail et grâce. Comme je disais, on pourrait s'arrêter là, mais c'est vraiment un enseignement fondamental, toujours dans nos vies, se souvenir, s'il n'y a pas le travail, eh bien, ça ne suffit pas, il ne faut pas juste attendre à Dieu. Il y a un travail, il faut semer, il y a un engagement personnel. Dieu l'attend, Dieu le souhaite, et c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien de s'engager. Mais en même temps, tous nos efforts que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit pour notre caractère, que ce soit pour la spiritualité, ne suffiront pas, suffiront jamais s'il n'y a pas cette grâce de Dieu, cette bénédiction qui nous accompagne et qui peut parfois même être là jusqu'au centuple. Mais le verset d'après, on pourrait dire tout est bien, il a travaillé, il a semé et il y a la bénédiction. Et voilà qu'il y a des jaloux. Et voilà que ça provoque l'ennemi. Voilà que les autres ne sont pas contents. Alors j'ai envie de dire, moi j'aimerais bien faire des jaloux. Et je trouve justement que nous on n'en fait pas assez. C'est une bonne chose, c'est super que les gens voient la bénédiction de Dieu. Bon, ça entraîne peut-être des querelles, ça entraîne peut-être même une guerre, des fois ça entraîne des difficultés. Mais je pense qu'on devrait pouvoir déjà aspirer à que des hommes et des femmes puissent être jaloux de l'Église. Vous êtes jaloux de nous. Ça serait tellement bon. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez cette situation où des gens pourraient dire dans le village de Mouchard, mais c'est extraordinaire, là, ces évangiles. Alors, il y aurait de la critique, bien sûr, il y aurait de l'opposition, mais ils sont bénis. Ils ont du travail. Ils ont des belles relations. On voit qu'ils sont bénis. Mais j'aimerais, frères et sœurs, que nous provoquions la jalousie. J'aimerais que nous provoquions l'envie. Et c'est ce qui se passe là avec la bénédiction de Dieu. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant à ce verset 15. Il y a une sorte de déclaration de guerre. Et il leur dit, fichez le camp. Et là, on trouve un chef sage et un Isaac sage. Et il fallait qu'il y ait les deux qui soient sages pour qu'il n'y ait pas une guerre. Isaac s'en alla plus loin. Quand on lit ce verset, on pourrait très 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 bien le lire ainsi. Ils avaient des troupeaux, les Philistins lui portèrent envie, tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, le temps d'Abraham, je ne sais plus si c'est là où c'est que c'est marqué, que tout d'un coup, verset 17, voilà, va-t'en, hein, et verset 17, Isaac partit de là et campa plus loin. Quand on lit ça, on pourrait vraiment se dire, mais comment ça? Nous qu'on est bénis, nous qu'on est riches, est-ce que tu crois qu'on va comme ça baisser la tête et puis partir? Ah ben quand même, on est avec l'Éternel, on va combattre, on va pas se laisser faire. Et des fois c'est juste, des fois il faut pas se laisser faire, des fois il faut réagir, des fois il faut combattre, mais pas toujours. Et là j'ai noté dans mon message, parfois combattre, résister, mais parfois aussi lâcher prise, quitter, et que ce n'est pas une honte, et que ce n'est pas une erreur, et que ce n'est pas une faute. On aurait parfois tendance, un évangélique un peu charismatique, pentecôtiste, musclé, où il faut toujours combattre, où c'est intrinsèquement juste de combattre. L'ennemi est là, nous devons combattre. Peut-être pas. Peut-être que des fois, tu as juste à lâcher prise, peut-être des fois, tu as juste à partir tranquillement, et que ce n'est pas une honte, que ce n'est pas une défaite, qu'au contraire, là, il a évité une guerre pour moi, Isaac. Il est simplement parti, simplement été plus loin. Tu cherches la guerre, ben pas moi. Tu me dis de partir, je pars. Alors qu'il avait toutes les raisons de rester là, puisque Dieu bénissait et qu'il avait le succès. Encore, il aurait eu que du désert, il aurait eu encore que du fruit difficile. Il aurait peut-être dit, ben, Dieu m'a fait comprendre que c'est dur, que je devrais partir, et puis il m'aide encore par l'ennemi pour me faire comprendre que ce n'est pas ma place. Mais non, je suis béni de Dieu là, je suis bien quand même. Si l'église grandit et tout va bien, je ne vais pas partir. Eh bien, voilà, l'ennemi lui demande de partir et il quitte. Et que fait Isaac? Eh bien, il poursuit l'œuvre de son père. C'est intéressant, ça. Il continue et il recommence ce qui avait été fait par le passé, ce qui lui avait amené cette richesse, ce qui avait amené la jalousie, ce qui lui avait amené la raison que l'ennemi lui dit « fiche le camp ». Il part et il sait que ça marche. Il sait que ça a apporté du fruit et il le reproduit. Ça, ça doit nous enseigner quelque chose. Je n'ai pas besoin, même quand je pars plus loin et même qu'il y a des difficultés, je n'ai pas besoin de réinventer la roue. Je n'ai pas besoin de trouver absolument une nouvelle manière de faire, de tout changer. L'expérience des autres, de ce qui a marché par le passé, peut me servir, peut m'être utile. J'ai peut-être juste à l'imiter. On est dans un monde où il faut toujours tout faire différemment. Il faut toujours trouver des nouveaux trucs, ça ne marche plus. Donc on cherche. Et là, Isaac, qui voit qu'il a été béni par ses puits, par cette eau qui est venue dans le désert, par ses troupeaux, par la grâce de Dieu, même s'il est chassé, même s'il provoque la jalousie, il va plus loin et il recommence à dire, bah, puisque ça a marché pour Abraham, mon père, moi aussi, je vais creuser des puits. Il a observé que ça fonctionnait, il n'a pas tout réinventé, il a refait ailleurs ce qui avait marché. Alors là, il y a une note très très intéressante sur la différence d'attitude d'Isaac et de l'ennemi. L'ennemi a bouché, rempli de poussière, littéralement, ses puits. C'est agir avec bêtise, avec entêtement, et à l'inverse de ce qu'il faudrait. L'ennemi voit que de creuser des puits dans le désert, ça apporte l'abondance et la richesse. Et au lieu, ben de quoi ? Ben de piquer le truc. Dire, ben nous aussi, on va creuser des puits pour avoir l'abondance. Eh ben non, on bouche les puits. On est fermé à l'autre, on est contre l'autre. Et je me dis, mais c'est incroyable. Ils n'avaient pas à inventer ou à trouver des choses. Ils avaient juste à imiter, ils avaient la solution. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils ont la solution, puis ils la cachent. Là, c'est une solution visible. Creusons des puits dans le désert et on peut avoir de l'eau et on peut avoir l'abondance. Eh ben non, je ne vais pas faire ça parce que je n'aime pas cet Isaac, c'est nos ennemis. Et je vais non seulement moi pas creuser des puits, mais je vais boucher son puits. Là. Et puis je suis content. Puis je n'ai pas l'abondance, mais lui non plus ne l'aura pas. Ça paraît une aberration et pourtant, mes amis, quand je dis ça un peu, je vois plusieurs têtes hochées parce que je suis comme ça et vous êtes comme ça. C'est la nature humaine. Au lieu d'imiter le bien, au lieu de se réjouir du succès ou de ce qui marche dans une autre église, dans un autre ministère, chez votre voisin dans son jardin, ben quand nous sommes bien disposés, qu'il n'y a pas de rivalité, qu'il n'y a pas de concurrence, ben on imite. On va demander un bon truc à son voisin, puis si ça marche, ben super, on va le faire. Mais combien de fois dans les choses spirituelles, on est blessé, on est en concurrence de rivalité, d'église, de ministère, de personne, et on fait exactement comme ses ennemis d'Isaac, on bouche les puits, on s'enferme, on s'entête. Comme Jonas, est-ce que tu as raison de t'énerver ? Oui, j'ai bien raison de m'énerver, oui, j'ai bien raison. Vous voyez, cet entêtement, cette attitude de cœur, où finalement on se crispe, on s'enferme, on s'entête sur un problème. Oui, j'ai bien raison de m'irriter. Alors là, nous sommes invités, avec ce contre-modèle, à justement faire comme Isaac. On est chassé, on va ailleurs, et ça marche de creuser les puits. Et puis on recreuse les puits. Alors que l'ennemi, ou nous parfois, on va s'entêter, et on va non seulement pas creuser le puits, mais on va même boucher celui des autres, et pas entrer dans une action positive et joyeuse. Parfois, au lieu de s'opposer, ou de tenir le terrain, ou de résister à l'ennemi, on ferait tout simplement mieux de trouver un autre lieu de paix, de grâce, et travailler avec ce qu'on sait qui est simplement bon, juste, au fond, une technique qui était assez simple et qui avait porté ses fruits, de creuser pour trouver l'eau. Et ça, bien sûr, dans nos vies, c'est peut-être creuser le puits de la lecture de la Bible, de la prière, du pardon, de la communion avec ses frères, plutôt que de boucher ses puits. Non, cette fois, je ne pardonnerai pas. Ou cette fois, je ne dirai plus la Bible parce que c'est trop compliqué, j'y comprends rien. Ou bien parce que cette fois, l'autre, il m'a fait trop de mal, etc. Eh bien, on bouche les puits au lieu d'ouvrir simplement ces puits dont on sait qu'ils portent du fruit, tout simplement. Et alors, il donne les mêmes noms à ces puits que par le passé. Ça encore, ça nous dit quelque chose, des générations qui succèdent. Il y a une reconnaissance de ce qui est passé. Ce n'est pas simplement « je refais mon puits », mais il est précisé, et c'est un petit détail qui a son importance, hein. C'est une AOC, une appellation d'origine contrôlée. On aime bien ça dans le Jura, les AOC. Hein. Il recreuse le puits, il le retrouve, il le débouche, et il ne dit pas « c'est le mien, c'est moi ». Il redonne le puits avec le nom que ses pères ont donné. C'est une manière de redonner l'honneur, c'est la culture de l'honneur. C'est une manière de redonner l'estime à ce qui s'est passé, qui a été ramassé par l'ennemi, brûlé, détruit, bouché. Est-ce que nous savons dans l'Église, comme ça, retrouver des puits anciens ? C'est déjà bien de les retrouver, mais pas de se les approprier en disant « voilà, j'ai découvert, mais je remets le nom du Père, de l'autre Église, de ceux qui sont avant moi, des générations ». Vous savez qu'à CP, c'est pour ça qu'on a fait ce sigle, qui est un tronc avec des branches qui sortent, pour toujours se rappeler que voilà, nous ne sommes pas de la première génération, nous ne sommes pas nés tout seuls. Il y a les médiations, comme appellent les catholiques, et nous on a un peu de peine avec les évangéliques, avec les médiations. Ce n'est pas juste toi et Dieu. Il y a l'Église, il y a les ministères, il y a les générations passées, il y a ceux qui se sont battus aux galères pour nous protestants, il y a ceux qui ont tenu. Il y a ceux qui, bien avant les pères du désert, qui étaient nombreux en Afrique du Nord, avec des théologiens, des docteurs de l'Église, des femmes catholiques qui ont été reconnues docteurs de l'Église, qui ont eu certes quelques erreurs, comme nous, nous en avons aussi, mais qui ont eu des trésors de richesse qu'on peut lire aujourd'hui dans les textes des pères de l'Église. Et nous, souvent, on a balayé ces puits. Non seulement on ne les a pas creusés, mais on ne les a en tout cas pas rappelés du nom de ceux qui les avaient trouvés. Pourtant, nous ne sommes, nous, évangéliques, héritiers d'une histoire, héritiers de tout un passé, et nous devons rendre hommage, rendre reconnaissance, retrouver ces noms du passé. Et cet exemple avec la société évangélique, c'est super. C'est ce qu'on peut faire maintenant. C'est honorer. Hier, c'était tellement beau, hier après-midi à Morée, c'était de pouvoir, eux, être dans la reconnaissance des pionniers qui se battaient encore aujourd'hui. Ils ont prié pour nous et pour vous en étant reconnaissants à Dieu pour des gens qui continuaient leur travail. Et nous avons pu bénir Dieu et reconnaître pour ceux qui, à 200 ans, sont venus là travailler. C'est une manière de renommer les puits, de les recreuser et de redonner le nom du passé. J'aimerais lire avec vous le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore, ce mot encore, dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Vous avez vu qu'il se dit au moins 4 ou 5 fois, ils se déplacent, et chaque fois ils font, on a compris, hein, ils creusent un puits. C'est ce qu'ils savent faire, donc ils le font. Ils persévèrent avec cette technique qu'ils ont. Mais aussi, à un moment donné, les serviteurs ont creusé un nouveau puits. Ce n'est pas un puits bouché, c'est un nouveau puits. Et celui-là, merveilleux, encore plus que ceux du passé, était un puits d'eau vive, une source. Ils ont creusé, ils ont trouvé une source, ce n'est pas seulement un puits qui descend dans la nappe phréatique. Vous savez qu'il y a 3 sortes de manières, il y en a peut-être plus, mais de garder l'eau. C'est faire une citerne, on récolte l'eau, hein, puis on fait un récipient. Ça, c'est, je dirais, le moins bien, parce qu'après, il y a les crapauds, les grenouilles, et puis l'eau qui stagne. Et donc, il y a un peu mieux, c'est on descend dans la nappe phréatique, c'est un puits, donc on trouve là, puis des fois, ben, elle descend, puis ton puits n'est pas assez profond, tu n'as plus d'eau, mais tu es dans la puits. Et puis, il y a les sources d'eau vive. Où là, en creusant, en enlevant un caillou, tout d'un coup, on détourne, on trouve, on arrive à une rivière souterraine, et tout d'un coup, ça jaillit, parce qu'on libère un passage, et c'est plus qu'un puits, bien plus qu'une citerne, c'est un puits d'eau vive. Et ça, c'est un nouveau. On n'est pas tout dans le passé, autant tout ce que j'ai dit avant, d'honorer les puits anciens, d'honorer vos conducteurs, d'honorer ceux qui nous ont précédés, est vrai, autant est vrai, l'initiative, la créativité, l'encouragement. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous qui, au détour d'un chemin, pourrait soulever une pierre et trouver une source d'eau vive. Vous imaginez la joie? La joie de découvrir un puits qu'on débouche, de le renommer du nom de ses fondateurs, d'être héritier, et aussi la joie de la découverte, de l'initiative, de la créativité, où chacun d'entre nous peut avoir sa part. Grandir, avancer, avec les trésors anciens et les trésors nouveaux. Vous connaissez ce texte du Nouveau Testament où il dit « Heureux est l'homme qui sait puiser des trésors anciens et des trésors nouveaux. » Exploitons nos forces. Exploitons encore et encore, avec compétence et persévérance, avec succès, ce que nous savons faire. Il y aura des tensions. Il y aura des épreuves à chaque fois, vous avez vu, il n'y a pas qu'une fois et on verra encore la suite la prochaine fois, combien ça engendre des tensions, des oppositions de l'ennemi, qu'il faut persévérer, que ce n'est pas simple, on n'est pas dans l'irénisme ou l'idéalisme. Mais en même temps, dans ces tensions, la persévérance d'aller vers le succès, de trouver ce puits ancien et nouveau. Verset 20, il nous dit... Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Essec. On verra la prochaine fois les significations de ces différents puits et qu'est-ce que ça peut dire pour nos vies chrétiennes. Mais là, je m'arrête simplement à cet aspect de la querelle. Qu'est-ce qu'ils font de nouveau, ils ne s'opposent pas. À nouveau, ils ne se battent pas, ils ne se confrontent pas, ils ne perdent pas leur temps avec ça. Ils vont plus loin et encore, ils creusent. Et je dirais que dans cette manière de faire, j'y vois plusieurs aspects. Il y a le travail simplement de transpirer. Quand on fait un effort d'évangélisation, il y a une partie qui est juste se prendre la tête, Angéline peut en dire quelque chose, avec le flyer qui ne va pas comme il faut, celui qui l'imprime qui ne met pas la bonne marge, Jackie qui a un problème avec Eliane qui va retrouver des fautes d'orthographe alors qu'on avait déjà révisé 3 fois, etc., etc., etc. C'est, il faut transpirer, c'est compliqué, on ne se comprend pas, on avait pourtant fait enfin tout ce qu'il fallait. Et il y a encore des fautes, il y a encore des erreurs, et parfois des grosses qu'on ne voit pas. Ça, c'est la transpiration. Eh bien, il y aura encore toujours ça. Mais ça, c'est le travail. Mais il y a autre chose. Il y a le savoir-faire et la technique. Il y a des gens qui ont des dons pour quelque chose. On peut tous transpirer. Tous. On a tous à travailler. Mais on n'a pas tous le même travail à faire. On n'a pas tous le même don. Et on est complémentaires, on est un corps. Et il faut apprendre, bien sûr, à découvrir son don. Alors, je vois déjà plusieurs d'entre vous que je connais bien qui vont me dire, mais justement, moi, c'est mon problème. Je n'arrive pas à trouver mon don, je suis généraliste. Ouais, c'est bien si tu es généraliste, super. Sois généraliste, mais sois-le à fond, sois-le joyeusement. Il y a une technique, il y a un savoir-faire, il y a une marche persévérante qui n'est pas juste la transpiration, qui est aussi connaître ce qu'on sait faire, ce qu'on sait être au milieu des autres. Et ça, c'est important de pouvoir le travailler, de pouvoir se former dans ce domaine-là, de pouvoir avancer. Et puis, il y a aussi l'évaluation. Il y a aussi la saine critique. Il y a aussi dans le corps la saine évaluation d'un problème. Pourquoi il arrive? Comment ne pas le reproduire? Oser évaluer nos dons. Et osons s'évaluer les uns les autres dans l'amour, dans le respect. Mais on voit que dans ce cheminement, avec ces puits, il y a les puits anciens, il y a les puits nouveaux, il y a la technique, il y a le travail, il y a la formation, il y a l'évaluation. Il y aura encore des tensions, mais il nous faudra persévérer. C'est tellement beau comme ce refrain, chaque fois qu'ils se déplacent, première chose qu'ils font, et puis ils cherchèrent un puits ou ils creusèrent un nouveau puits. Pourquoi? Parce que c'était leur chemin, c'était leur appel. Et on peut relever ça un petit peu comme dans notre réseau ou dans telle église, telle dénomination, on a des forces, on a des savoir-faire. On n'est pas parfait, mais on a un savoir-faire, on a une manière d'être. Certains vont être très doués dans le liturgique, le beau, faire des beaux vitraux, même des habits liturgiques, même de l'orgue, etc. Puis nous, on va dire, oui, mais c'est du religieux. Pas du tout. C'est de la beauté qui peut honorer Dieu, c'est fait qu'un cœur sincère. Puis si elle n'est pas faite en cœur sincère, ben, la spontanéité n'est pas meilleure. L'absence de vitraux n'est pas moins religieuse si c'est juste parce qu'on ne veut pas de vitraux, c'est tout. Hein. Vous voyez ce que je dis? Donc chacun a ses forces, et c'est le cœur qui peut changer, qui peut être bon ou mauvais. Mais donc il y a des églises qui vont développer au fil des siècles une belle liturgie, qui vont avoir le soin de l'esthétique, de la musique, ou des vitraux, des habits, etc. J'étais très étonné, on avait une réunion de jeunes leaders, dernièrement à Fontainebleau, c'est pour ça que vous ne me voyez pas toujours ici, et on travaille quand même, et on avait une bonne rencontre, et c'était étonnant avec les jeunes. Je passais rapidement sur un point, parce qu'un des jeunes leaders a posé la question de la succession apostolique dans l'Église catholique, si c'était vrai ou faux, si c'était de la foutaise ou si c'était aussi quelque chose à considérer. Et puis je passais rapidement sur un point où je leur expliquais comment un évêque était nommé, comment ça se passait dans la liturgie. Et j'étais étonné de voir certains jeunes leaders tout intéressés à trouver que le sens de certains gestes, comme la prostration de l'évêque, c'est pas prosternation, mais prostration, il est prosté, il est complètement à plat, pas à genoux, mais à plat, ça peut être la pire des choses ou la meilleure des choses. Mais ça a un sens. Chose d'intéressant, je t'abandonne ma vie, là je suis à plat devant toi, je vais être serviteur. Ça peut être bon ou mauvais, et plein d'autres choses comme ça qui ont un sens, qui peut être très bon ou mauvais. Et j'étais intéressé de voir qu'en fait, on peut regarder ces choses sous un jour positif, constructif. Et alors nous évangéliques, eh bien on a aussi nos forces. Ce n'est pas les mêmes que les réformés, qui sont peut-être plus dans une réflexion intellectuelle poussée, avec une licence en théologie. C'est bien là aussi, il ne faut pas être contre l'intellectualisme. Sylvain serait là pour nous le rappeler. Quand il dit que, quand on dit que c'est pas bien d'être rationnel, il va nous dire si c'est bien, la foi et la raison vont ensemble. Mais il y a une mauvaise raison qui veut détruire la foi, comprenez? Mais il ne faut pas opposer les choses. Eh bien, la même chose dans tous les domaines. Donc, chez les évangéliques, on peut voir quelles sont les forces, quels sont les puits qu'on veut creuser. Et puis, dans le réseau CP Jura-Bresse, dans notre réseau, encore des puits plus spécifiques qu'on veut creuser. Et cela, il nous faut nous encourager à les cultiver encore et encore. Il faut nous encourager à travailler ce que Dieu nous a donné, à pouvoir le développer pour qu'il y ait cette bénédiction. Il y aura des conflits, il y aura des difficultés, mais chacun de nous est appelé à travailler dans ce corps, dans ce réseau, pour que, avec la bénédiction de Dieu, ça puisse rapporter le centuple. Voilà, on va prier le Seigneur pour qu'il nous aide à trouver chacun vraiment notre place, notre détermination qui touche aussi notre caractère, pour qu'on comprenne, qu'on entende qu'est-ce qu'il attend de notre génération, de notre église. Ce n'est pas une autre église, ce n'est pas un autre truc où il se passe des choses extraordinaires ou qui sont super, où je peux aller, où je peux courir, mais c'est vraiment dire, ici, Dieu m'a placé, avec notre église, avec notre réseau, quelles sont les forces? Qu'est-ce que Dieu nous a donné de montrer au monde? Et que là, on s'y accroche, on y développe des racines, on y creuse, et qu'on puisse ainsi, des anciens puits, des nouveaux puits, pouvoir faire jaillir l'eau, pour que beaucoup puissent être nourris, puissent être abreuvés, pour qu'il y ait une bénédiction. Et pourquoi pas rendre jaloux aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui puissent vraiment voir que Dieu nous bénit. Et mon aspiration vraiment, c'est vraiment que la gloire de Dieu puisse revenir et que si ça a été possible il y a 200 ans avec des dizaines et des dizaines de colporteurs qui ont pu toucher les hommes et les femmes dans ces régions et que dans les régions reculées de Bresse, rurales, il y a pu avoir des églises avec des écoles chrétiennes de 100, 200, 300, c'est que c'est possible et que c'est à nous aussi d'être appelés à relever le défi avec, de manière intergénérationnelle, les jeunes comme les vieux, chacun à sa place pour de la créativité, pour de la transpiration aussi, mais avec la grâce de Dieu et la bénédiction, l'encouragement de, aussi d'être positif, d'être constructif ensemble. Seigneur, nous prions vraiment que tu nous parles et que tu nous encourages ce matin, que tu nous défies, chacun avec nos personnalités propres, chacun avec notre appel propre, mais encore en équipe, en église, à pouvoir retrouver ces puits du passé que tu as donnés, à pouvoir trouver de nouvelles sources, Seigneur, innovantes, de pouvoir honorer ceux qui nous ont devancés, Seigneur, dans ton royaume, ceux qui nous ont précédés sur cette terre. Seigneur, donne-nous aussi d'avancer en ayant chacun notre place avec persévérance, malgré l'opposition, malgré les gens qui vont nous chercher querelle, malgré les gens qui vont peut-être même nous chasser, pas nous vouloir. Et ça, on peut le vivre aussi aujourd'hui, Seigneur. On peut être chassé des hôpitaux, des salles des fêtes ou d'autres endroits, mais Seigneur, on veut trouver aussi vraiment notre place là où tu nous la donnes et pouvoir avec joie, avec sérénité, avec confiance aussi, avec estime des uns des autres, grandir, être en bénédiction, et que ta grâce, Seigneur, repose sur notre réseau, que ta grâce repose sur nos communautés, que ta grâce repose sur nos familles et que le monde le voit, parce que nous voulons être en bénédiction et pour cela nous avons besoin d'être bénis par toi, renouvelés dans ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.